Steve Juncker, cette exposition qui se déroule dans les locaux de l'école des arts appliqués à la rue Necker montre les photos que vous avez réalisées à Gaza. S'agissait-il d'une commande pour un journal ou est-ce une initiative personnelle?
Alors c'est une initiative personnelle. Je suis parti donc deux fois. Il y a des images mélangées du retrait des colons israéliens en 2005 et puis la dernière intervention israélienne, enfin la dernière de l'été dernier, qui s'appelait Puits d'été. Donc deux reportages qui ont été réalisés et chacun sur une initiative complètement personnelle, proposée uniquement par les chiffres qui avaient été énoncés. En l'occurrence pour le retrait des colons israéliens, ce qui avait été énoncé c'était 100 000 soldats pour 8000 colons à déplacer, avec la présence de 5000 journalistes. J'ai trouvé ça suffisamment étrange et particulier pour imaginer que ce qui allait être visible, ça allait être plus proche d'une grande mise en scène théâtrale. Donc ça m'intéressait d'aller voir ce qui se passait, et non pas pour parler des problèmes politiques de la région. Et la deuxième fois, c'est-à-dire en été 2006, je suis parti. Alors je suis chaque fois parti en été, mais c'était pas des vacances. Hein, ça tombe toujours dans des périodes qui sont celles de l'été, mais ça n'a pas été un choix. Et puis je suis parti donc en 2006 pour une intervention qui s'appelait Pluie d'été, voilà. Et je suis parti parce que le titre Pluie d'été m'a paru justement extrêmement violent pour parler de bombardement.
Et comment se passe pour un photographe les autorisations, la possibilité d'arriver, de couvrir ces événements?
Alors pour les deux interventions à laquelle j'ai pu participer, ça a chaque fois été, j'ai donc dû passer par le service de presse israélien qui nous donne une accréditation et qui nous permet de passer la seule frontière, qui nous permet de rentrer dans la bande de Gaza. Donc là, les deux fois où je suis parti sur Gaza, la seule possibilité d'y aller, ça a été d'obtenir une carte de presse israélienne temporaire qui permette de donner l'accès à la bande de Gaza.
On voit les problèmes réguliers concernant la venue d'observateurs ou même avec les problèmes qui se passent actuellement pour que les artistes viennent exposer à Genève et sont littéralement bloqués. Comment avez-vous été, pas dire reçu, mais autorisé à effectuer votre travail puisque ce qui se passe là-bas n'est pas politiquement montrable?
Politiquement montrable, non, ça montre simplement le marasme dans lequel, je crois, le monde se trouve. C'est-à-dire, il y a évidemment des gens qui décident, ces gens sont connus pour les quelques personnes qui les connaissent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent ni la bonne question, ni la bonne solution, parce que simplement, ça donne l'impression d'être insoluble, parce que trop peu de gens décident, pour finir, de ce qui s'y passe.
Israël n'aime pas tellement que des observateurs viennent et puissent constater nombre d'exactions qui se produisent.
Alors étonnamment, et depuis le temps que se passent des problèmes dans ces régions, on s'aperçoit qu'il y a en Israël une quantité invraisemblable de journalistes permanents, toujours sur place, qui montrent systématiquement, que ce soit les attentats d'un côté comme de l'autre. Il se passe étonnamment. Je pense qu'il est peut-être. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il laisse plus facilement montrer ce qui se passe du côté des Palestiniens plutôt que de leur côté. On voit assez peu de morts quand il s'agit d'attentats et d'autres du côté israélien. On les voit par contre beaucoup plus du côté palestinien. C'est vrai que quand on arrive en avion, on arrive sur territoire israélien, donc contrôlé par Israël. Quand on va sur la bande de Gaza, on est autorisé à rentrer et à sortir par les Israéliens, qui évidemment nous posent des questions, qui nous demandent ce qu'on a été faire, qui essaient de faire un mini-contrôle. Mais on a une totale liberté. Et je pense que sincèrement, c'est plutôt à leur avantage, quelque part, plutôt que de faire obstruction à une information qui de toute façon passera et qui sera amplifiée par justement par la problématique du très peu de gens qui ont pu y aller et qui ont pu le montrer. Ça prendrait, à mon avis, des dimensions différentes. Je pense que justement cette masse de photos qui parle de ces sujets aussi difficiles que ce que peuvent vivre les Palestiniens, pour finir, vu la quantité quotidienne de ces images, je pense qu'ils doivent imaginer qu'elles s'auto-censurent les unes les autres. C'est-à-dire que cette quantité ne fait, pour finir, plus voir grand chose. On arrive à une espèce, on connaît l'imagerie de ces régions et du coup quand on regarde ou quand on voit une image qui illustre un papier, on a simplement l'impression de l'avoir déjà vue. On ne peut pas la coller sur ni une intervention particulière, ni une date particulière. Au pire des cas, on la colle sur des saisons différentes, mais voilà, je pense que c'est même plutôt très intelligent de leur part que de laisser justement tous les journalistes faire leur travail.
Alors Steve Juncker, vous êtes habitué, entre autres, à travailler à Genève dans des conditions qui sont plus confortables, à aussi envisager de cadrer vos photos en fonction d'une certaine esthétique. Quand vous arrivez à Gaza, où il y a une certaine injustice qui doit aussi bouleverser l'homme, qu'est-ce qui prend le pas? Comment pouvez-vous essayer de maintenir toutes les exigences? Quel est le photographe qui se dessine à ce moment-là?
Alors, ça peut paraître particulier ou bizarre, mais j'ai l'impression de voir et de travailler exactement de la même manière, que ça soit à Gaza. Il m'est arrivé d'aller à New York, donc travailler à New York de la même manière, que ce soit à Paris ou à Genève. Je vois les choses à peu près avec le même regard, avec les mêmes questions. J'oublie aussi bien à Genève ou à Gaza de faire ma mise au point parce que le sujet qui se propose devant moi m'intéresse à un point où le moment où il se passe est tellement rapide qu'il m'arrive d'oublier la technique que j'ai appris à l'école. Donc tout ça pour dire que j'ai pas le sentiment de vivre différemment la photographie, que je sois dans un endroit ou dans un autre. Évidemment que le climat, évidemment que la violence, évidemment que les peurs qu'on peut avoir dans une région comme la bande de Gaza ne sont pas les mêmes qu'à Genève. Mais pour rappeler simplement le G8, j'ai eu quelquefois plus peur, pas de mourir en l'occurrence, mais plus peur d'agressivité, de choses qui auraient pu très mal se passer, me concernant, hein, tout simplement, casser un appareil, prendre un coup sur la tête, prendre un pétard et se faire arracher le mollet, enfin tout ça, que j'ai ressenti d'une manière différente à Gaza, mais je veux dire par là, j'ai pas eu le vrai sentiment d'avoir vécu une photographie différente. Je m'applique pas à faire autre chose parce que je suis ailleurs.
Quand vous êtes à Gaza, quel genre de photos voulez-vous montrer? Est-ce que vous voulez délivrer un message ou est-ce que vous essayez de garder, on ne peut pas parler d'objectivité, mais de donner un état de la situation?
Un état de la situation, en tout cas pas. J'essaie de répondre à ma curiosité qui est proposée. Ça va paraître complètement égoïste hein, de penser comme ça, mais moi ce qui m'a proposé d'aller pour le dernier reportage, pluie d'été, reportage que j'ai intitulé Gaza Booms, parce que pour finir, parce que ça boume souvent à Gaza, en l'occurrence pendant la période de pluie d'été, c'était de voir comment moi, en face des gens qui souffrent, comment réagir en face de bombardements. Franchement, j'ai pas la prétention de pouvoir ramener des images qui vont faire changer quoi que ce soit dans le monde. Je ne crois pas non plus que les images aient réellement changé le cours de l'histoire. Je pense qu'elles ont pu stimuler des curiosités, stimuler des intelligences, faire réagir des gens, et heureusement, mais je ne pense pas qu'elles aient pu arrêter la guerre du Vietnam, qu'elles arrêteront les guerres futures. On a eu suffisamment d'exemples d'atrocités photographiées, que ce soit des exécutions, que ce soit des massacres, quasiment en direct, et on est toujours surpris de voir que ça continue, et on pense toujours que les images pourraient faire cesser tout cela. Donc c'est pour ces raisons-là que je dis que mes images ne sont non plus pas un constat, mais ne sont que le regard que j'ai porté sur ces gens à une période donnée, dans un endroit donné.
Et nous trouvons donc dans les bâtiments de cette école. On peut lire sur le programme que la question est posée de savoir s'il s'agit de photographie, s'il s'agit d'art. Comment prenez-vous cette question, uniquement à titre scolaire?
Alors c'était simplement, comme je suis quand même étiqueté photographe de reportage, photographe de presse, il était intéressant de voir et de se poser la question. Alors après, la question est intéressante, la réponse, personnellement, on pose des questions, on n'y répond pas forcément, c'est un énorme sujet. Est-ce que des photographies de presse mises sur les murs informent ou racontent autre chose? Moi je pense que sincèrement elles ont un statut simplement différent. Je pense que quand on fait avec amour et intelligence son travail, je pense que les pertinences, qu'elles soient dans un magazine, dans un journal ou sur des murs, peuvent exprimer la même chose. À la différence, c'est que sur des murs et dans une galerie, c'est le photographe qui choisit ses images, que dans un journal, c'est souvent la rédaction en chef qui décide ou non de passer certaines images ou de limiter la quantité d'images. On a donc de moins en moins de place, raison pour laquelle la question se pose. La photographie de presse, au risque de l'exposition, est-ce que le futur de la photographie de presse ne sera pas sur des murs et dans des galeries, voire des livres, plutôt que dans des magazines ou des journaux où, pour finir, on attend, on nous demande de montrer des choses que l'on connaît, que l'on voit tous les jours et qui n'apportent pour finir plus beaucoup d'informations.
Steve Juncker, on entend beaucoup de sons, même certains ambulances, canons, etc. Comment, dans quelle ambiance avez-vous travaillé véritablement avec ce bruit permanent?
Alors le bruit est justement dans la bande de Gaza quelque chose d'extrêmement présent. Les drones tournent en permanence, on a l'impression que tout le monde tond le gazon jour et nuit. Il y a des tirs de canons, de tanks qui sont là uniquement pour faire du bruit puisqu'ils tirent dans des champs où il n'y a personne, mais c'est vraiment pour marquer une présence militaire forte, enfin pour dire que ça ne rigole pas. Il y a les tirs des hélicoptères de temps en temps quand il y a des interventions, c'est qui reste très impressionnant. Les hélicoptères avec toutes les références, voilà, on entend les tirs d'hélicoptères. Et puis dans tout ce bruit il y a toute une vie qui continue à fonctionner à peu près comme on pourrait imaginer dans nos villes, avec évidemment des comportements et des habitudes différentes, mais enfin sinon tout continue à fonctionner normalement, à part que le bruit de nos bruits traditionnels de bruit sont remplacés par des tirs de canon, tirs d'hélicoptères, des drones, des ambulances, Et là, c'était particulier parce que c'était en même temps, vraiment, pendant une intervention musclée. Donc, automatiquement, il y avait plus de bruit que d'habitude. Les tirs de Kalachnikov, les chants religieux, c'est très impressionnant. Et tout ça se mixe. Et ça m'a paru très important, comme à peu près tous les reportages que je réalise. Je prends du son sur place, que ce soit sur des interviews de gens que je photographie, que je n'interviewe pas, mais je trouve intéressant d'avoir des traces sonores des photographies.
Là, vous avez réalisé un montage, ou est-ce que continuellement, jour et nuit, vous écoutez ce bruit des canons, hélicoptères, drones, etc.
Alors là, c'est un condensé évidemment de ces sons qui sont devenus très impressionnants. C'est pas jour et nuit la puissance des sons que j'ai là. Simplement, je n'ai pas mélangé, mixé des sons. C'est des sons que j'ai mis bout à bout. Et quelquefois, il n'y a pas de son qui s'enchevêtre. Donc c'est vraiment le son mis bout à bout qui donne cette impression-là. Évidemment que c'est pas du permanent parce que ça coûterait trop cher. Je ne pense pas que ce soit pour une histoire de bruit. Je pense que ça leur coûterait trop cher. Donc ils sont obligés de faire des haltes entre deux. Mais sinon, c'est vrai que ce bruit est un bruit assez honnête par rapport à ce qu'on peut ressentir et vivre. En tout cas, les premières 5 minutes, quand on arrive sur place, c'est exactement ce qu'on entend il y a une année.
Vous avez remarqué que ce bruit est également provoqué dans un but guerrier, dans un but de démoralisation de la population, qui n'est pas spécifiquement pour tuer des personnes, mais justement pour leur faire peur.
Je pense que le bruit, c'est quelque chose que même chez nous, on a comme gros problème. Les gens qui habitent au bord des aéroports, ces gens qui se plaignent parce qu'on va agrandir un aéroport ou parce que les avions doivent arriver plus tard, c'est pas juste une histoire de dire que le bruit dérange et que c'est embêtant, c'est que ça pèse, je pense, très, très fortement sur le moral et sur l'énergie des gens. À force d'être systématiquement en proie au bruit qui, automatiquement dans ces régions-là, est un bruit qui pourrait être dangereux, c'est-à-dire bombe, F-16 qui passe et qui passe au mur du son à basse altitude et qui fait exploser les fenêtres, on ne sait jamais très bien à quel moment c'est pour de vrai, à quel moment c'est pour de faux. Et du coup, ça rend, je pense que ça peut rendre fou. Le son peut rendre fou.
Est-ce que c'est la première fois que vous couvrez un pays en guerre ?
C'est la première fois que je couvre, que je fais un reportage où effectivement les bombes tombent et peuvent tomber. Il y avait eu le retrait des colons, on avait eu aussi des explosions, mais on ne savait pas très bien pour quelles raisons, et qui étaient effectivement, je pense, moins dangereux. Mais le danger, c'est pas que les bombes. Mais c'est la première fois que j'avais couvert effectivement un pays en guerre.
Et quelle est la réaction de l'homme quand vous vous trouvez face à des situations dramatiques ?
Mon ressenti, évidemment, c'est que j'espère, comme chaque être humain, c'est-à-dire évidemment, à aucun moment donné, j'ai le sentiment de me décharger, de me dire ça ne me concerne pas. Je me sens évidemment concerné, je suis sur place. Et j'ai simplement une gêne très forte, c'est-à-dire je dis, moi je suis là, tout va bien, et je sais que si vraiment ça devait merder un peu plus ou être un peu plus compliqué, je peux partir. Et ça, c'est ce qui moi, me dérangeait plus dans la position que je peux avoir en tant que reporter à l'étranger, dans des situations telles que celles que j'ai pu voir. Je veux juste aussi dire que j'ai volontairement refusé, je me suis refusé à moi de photographier les images les plus sanguinolentes, parce qu'on en voit. Et c'est très dur de résister à ne pas se laisser aller photographier une personne qui n'a plus de crâne, à des membres arrachés, parce que ça devient, je rentrerai dans cette caricature visuelle de ce que peut être exprimé, de ce qu'on exprime souvent comme la photographie de guerre avec ses atrocités. Je pense qu'on peut montrer des tensions et des forces plus importantes et plus émotives, plus chargées d'émotions, de sons, même si elles ne diffusent pas de son, avec quelquefois des images d'attente, des images de repli et des images de pleurs, me paraissent quelquefois plus pertinentes et plus intéressantes que des images sanguinolentes ou voilà.
Vous parliez tout à l'heure du confort que procure le billet de retour, mais il n'est pas véritablement garanti. Je pense que même quand vous étiez là-bas, vous avez pensé aussi aux otages. Il y a actuellement celui de la BBC qui a été enlevé. Est-ce que cela aussi provoque un sentiment particulier lors de votre travail ? Est-ce que finalement, vous demandez pourquoi vous êtes là et risquez peut-être beaucoup ?
Moi, je sais que pour moi, si j'ai décidé d'aller dans cette région-là, je ne me pose pas trop la question de savoir si je vais revenir ou pas revenir, si je vais avoir quelque chose, un incident ou pas. Je pars du principe que je peux, mais que j'ai beaucoup de chance et qu'il n'y a pas de raison. Sinon, je n'irai pas. Sinon, ce serait absolument tellement angoissant, parce que quand ça explose à peu près partout, tout le temps, on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas dessus. si on doit calculer comme ça, ce serait impossible de travailler. Donc moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Je pense que la meilleure manière de pouvoir travailler, même si c'est un leurre, quand je dis le billet de retour, évidemment que je ne peux peut-être ne pas le reprendre, ce vol de retour, mais toujours est-il que ça apporte une telle sécurité que je pense que peut-être les différentes inconsciences qu'il pourrait y avoir dans ces différents reportages, assurées de ce retour, pour finir assez court dans le temps, puisque je ne reste pas pendant 6 mois, me donne une assurance qui peut-être me font échapper à plein de petits dangers. Je sais pas.